Alors, troisième point, je me hâte, la postérité de tout ça. Hein. Alors, j'entends bien, vous pouvez être choqué. Et c'est vrai que l'évangile selon Jean, tel que je l'ai analysé, autorise, dans les passages que j'ai cités, ce qu'on a appelé la fuga mundi, c'est-à-dire la fuite loin du monde, des origines. Au début, les premiers chrétiens, parfois, fuyaient loin du monde. Par exemple, c'était des anachorètes. Alors, anachorète, CH, ça vient d'anachorène qui veut dire se retirer, voyez. Ou bien ils allaient au désert et ils devenaient des ermites. Ermite vient du grec eremos qui veut dire le désert, hein, d'où érémitique qui veut dire désertique. Bon, alors, pour être plus près de Dieu, pour être plus en haut qu'en bas, bon, ils fuyaient le monde, hein. Par exemple, Saint Siméon, vous avez entendu parler de Saint Siméon, stylite. Il vivait sur sa colonne, stylos en grec, hein, pour être plus près du ciel. Il est resté, je sais pas, une vingtaine d'années sur sa colonne, hein, pour être plus près de Dieu. Voilà. Hein. Donc, effectivement, c'est assez folklorique, mais si ce que dit Jésus, hein, ento cosmo clipsine qui était à la tarseite gonénique katon cosmon, dans le monde vous avez la tribulation, mais ayez confiance, moi j'ai vaincu le monde, alors on peut le fuir, le monde. Et puis ça peut aller jusqu'au contemptus mundi, c'est-à-dire le mépris du monde, au XVIIe siècle par exemple. On le trouve par exemple dans les stances de Polyeucte de Corneille. Tenez un petit peu de poésie, hein, voici ce que dit Polyeucte. Source délicieuse en misère féconde, que voulez-vous de moi, flatteuse volupté, honteux attachement de la chair et du monde, cosmos. Que ne me quittez-vous quand je vous ai quitté, allez, honneur, plaisir qui me livrait la guerre, toute votre félicité, sujette à l'instabilité, en moins de rien tombe par terre, et comme elle a l'éclat du verre, elle en a la fragilité. Vous voyez, le verre est fragile. Il nous fascine, mais il est très fragile. Et Malherbe dit la même chose dans sa paraphrase du psaume 145. Encore une de la poésie. N'espérons plus mon âme aux promesses du monde. Hein, sa lumière est un verre et sa faveur une onde que toujours quelques vents empêchent de calmer. Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre. C'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qu'il faut aimer. Alors, il me semble que tout l'évangile de Jean peut se résumer dans la fameuse formule que vous connaissez. C'est la formule que Jésus adresse à Pilate. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? » Jean, chapitre 18, verset 36. Alors, le royaume, bien sûr, n'est pas un royaume temporel, comme l'attendaient les Juifs dans le cas de leur attente messianique. Mais aussi, comme je l'ai dit aussi à propos du royaume de Luc, il peut devenir une réalité purement intérieure et spirituelle. Vous voyez, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors là, je vais formuler une hypothèse. Vous me direz ce que vous en pensez. Les premières générations chrétiennes vivaient dans ce qu'on appelle un climat d'imminence eschatologique. C'est-à-dire, une fois le Messie mort, elles attendaient impatiemment sa parousie, son nouveau retour. Vous voyez ce que dit Paul, par exemple, il dit Maranatha en araméen, en 1 Corinthiens 16, 22, en araméen, ça veut dire notre Seigneur vient, vient. Et le dernier mot de l'Apocalypse, c'est pareil, hein, vient Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Et de même, la figure de ce monde passe, comme dit Paul, hein, n'a de sens que parce que la parousie est conçue comme devant venir tout de suite, bientôt. Hein, voilà, la figure de ce monde passe. Ce n'est pas du tout le monde en général, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Hein. Mais il suffit de lire le Notre Père pour voir qu'on attend le royaume. Atveniat regnuntum, adventisme, c'est-à-dire vienne ton royaume, que ton royaume vienne, vous voyez. Hein. Bon, alors on l'a attendu pour tout de suite, mais au fil des générations, il n'est pas arrivé, il n'est pas revenu. Jésus n'est pas revenu, le temps a passé, la parousie ne s'est pas produite. Alors, comment les hommes n'ont pas pu l'avoir de leur vivant? Eh bien, ils ont accepté les délais du temps. Je vais prendre une comparaison. C'est comme quand vous attendez le tram ou le bus. Hein. D'abord, vous êtes debout et vous fixez le point d'où il va venir. Hein, et en quelque sorte, vous le tirez des yeux. Hein. Et puis, il vient pas, 5 minutes passent, 10 minutes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous asseyez, plus patient, vous acceptez les délais du temps. Et voyez aussi la posture des ceux qui priaient, les orants ou les orantes primitifs, et priaient debout, hein, ils étaient debout. Tandis qu'ensuite, on a prié à genoux, hein. C'était, et puis alors, sur les fameux prie-dieu, parfois équipés d'un coussin bien douillé pour que ce soit plus confortable, etc. On a accepté le temps. Alors, il est donc compréhensible qu'à partir de la fin du 1er siècle, la parousie ne s'était pas produite, on ait pu vouloir la transformer, hein, et on l'a transformée en présence intérieure et en réalité spirituelle. C'est ce qui expliquerait le succès des grands systèmes gnostiques du second siècle, qui ont opéré cette transformation, cet infléchissement, vous voyez. Donc il n'est plus nécessaire d'attendre pour le futur quelque chose que l'on peut trouver en soi-même, et qui, en quelque sorte, est comme déjà arrivé, hein. Voici le Logion 51 de Thomas, ses disciples lui dirent « Quel jour le repos de ceux qui sont morts arrivera-t-il, et quel jour le monde nouveau viendra-t-il » Bon, le monde nouveau, celui de l'Apocalypse, voici, je fais toutes choses nouvelles, mais on l'attend, hein. Et Jésus répond, il leur dit, ce que vous attendez est venu, mais vous ne le connaissez pas. Mais vous ne le connaissez pas. C'est déjà là, hein. Pareillement, au Logion 113, ses disciples lui dirent, le royaume, quel jour viendra-t-il? Eschatologie. Jésus répond, il ne provient pas d'une attente, on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là, mais le royaume du Père s'étend sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Ils ne le voient pas parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont pas fait la métanoïa, la conversion. Alors, quels sont les enjeux? Alors, si le royaume est intérieur, évidemment, il y a un danger dans cette attitude. Le danger est le suivant. Cela peut mener, cette haine du monde, à un désengagement vis-à-vis de ce monde et à un refus, par exemple, d'y voir faire régner la justice, comme dans les béatitudes, dans les synoptiques, hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, vous voyez, car ils seront rassasiés, ce que dit Matthieu, chapitre 5, verset 6. Donc, la théologie de la libération, par exemple, hein, qui veut s'engager dans la cité, pourrait s'appuyer sur les béatitudes, hein, le désir de justice, hein. Et pareillement, l'homme a pour agir le modèle d'un Christ révolutionnaire. Vous savez que Pierre Leroux, au XIXe siècle, avait une vision d'un Christ socialiste, hein. Bon, les romantiques aussi au XIXe siècle, hein. Mais cette nouvelle attitude faite d'intériorisation spirituelle n'autorise pas, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, l'engagement dans la cité. Alors, il me semble, pour vous avoir fréquenté depuis quelques années, que les protestants ne tournent pas le dos au monde. D'après ce que j'en sais, le monachisme y est inconnu, vous me direz si c'est vrai. Il y a peut-être des bonnes sœurs, un monde protestant, y a-t-il des moines? Vous me direz. Un moine, bon, très bien. Alors, beaucoup de protestants s'engagent et militent dans la cité, la CIMADE, etc., je le sais, hein. Et même le postulat de Calvin, de la double prédestination, prédestinant certains à la damnation et à d'autres à l'élection, qui semblait au départ mener à la paralysie totale et au refus de l'action dans le monde, a abouti à l'arrivée, à la valorisation de l'action. Alors vous allez me dire, mais comment? Eh bien, tout simplement, par la chose suivante, veut-on savoir si on est élu ou non? Eh bien, nous n'avons qu'à agir, et le résultat de notre action montrera si nous sommes élus ou pas, vous voyez. Donc, agissons, c'est le fondement de l'idéologie états-unienne, l'idéologie des États-Unis. C'est ce que l'on a dans le livre de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, vous voyez, hein. Donc agissons et on verra si on a du succès, si Dieu nous approuve. Par parenthèse, moi je suis un peu gêné parce que c'est finalement revenir aux ordalies ou aux jugements de Dieu médiévaux. C'est ce que c'est l'ordalie, hein. On touchait le fer rouge et puis si on n'était pas blessé, Dieu nous favorisait, vous voyez. Bon, aux États-Unis, la réussite vaut absolution, vaut bénédiction, hein. Et l'échec vaut malédiction, si vous voulez. Bon, enfin, n'empêche que les protestants ne méprisent pas l'action, bien que les présupposés, au moins chez les réformés, chez les calvinistes, semblé l'interdire. Par contre, au XVIIe siècle, les jansénistes qui se sont inspirés aussi de saint Augustin, hein, pour qui l'humanité était une masse de condamnés, une massa damnata, hein, eh bien, on refusé totalement l'action. Hein, et leur vision a été tragique et paralysante. Hein, il y a une incapacité pour l'homme janséniste de réaliser dans ce monde les valeurs dont il est porteur. Et dernier point, j'arrive au bout, hein, synthèse possible. Bon, alors, je répète, ou bien la fuite loin du monde, ou bien la vie dans la cité pour améliorer le monde. Eh bien, je pense qu'il y a une troisième solution. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'il faut d'abord se réfléchir en soi, hein, se changer soi-même, hein, et ce changement, par contagion et irradiation, va déteindre sur les autres. Hein. C'est ce que dit l'évangile selon Thomas dans son Logion 3, « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. » Donc, et là, il y a une possibilité de synthèse. Quand vous connaîtrez qui vous êtes vraiment, alors vous pourrez aller vers les autres et vous aurez une bonne socialisation et une bonne capacité de changer le monde, puisque les autres, vous voyant changer, par contagion, hein, par mimétisme, auront envie aussi de changer, vous voyez. Donc l'épigraphe que j'ai mise à mon livre sur l'évangile selon Thomas, c'est une phrase de Gandhi, hein, « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein. » Donc d'abord, changez-vous, et après, vous pourrez donner l'exemple aux autres. Donc l'action doit être précédée par un changement de mentalité, par cette métanoïa dont j'ai parlé, le changement de mentalité. Par parenthèse, je vous indique que métanoïa, quelques mots hébreux, teshuva, qui signifie pour le peuple le retour vers Dieu par la repentance. Mais pour la Kabbale, la gnose juive, la teshuva, c'est le retour en soi, hein, le retour au fond de soi-même, vous voyez. Donc la version vulgaire, c'est la pénitence, hein, et on traduit souvent penitentia, metanoia par penitentia, par pénitence, alors qu'au contraire, c'est un retour à soi. Hein. Alors finalement, Socrate l'avait déjà dit, gnotis et auton, connais-toi toi-même, s'explorer soi-même et voir ses propres possibilités, en bien et en mal, c'est le préalable à toute bonne socialisation et toute action pour le changement éventuel des autres. Il faut savoir connaître, c'est gnosis, gnose, connaissance, ce que nous pouvons faire en mal, en bien, et même parfois ce que nous pouvons faire en pensant bien faire. Valérie disait, l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Vous voyez, hein. Donc, essayons de faire qu'il n'en soit pas ainsi, hein. Et par exemple, à la différence de Paul, dans son passage sur l'agapé que j'ai cité en commençant, le beau passage, il est beau littérairement, 1 Corinthiens 13, hein, l'amour triomphe de tout, etc. Je ne pense pas, moi, que l'amour, l'agapé, passe avant la connaissance ou invalide la connaissance, ou la gnose, hein. Je pense que l'on ne peut pas aimer vraiment si on ne réfléchit pas avant, hein, si on ne s'explore pas, si on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Aimer yeux fermés, aveuglément, c'est comme tirer sans viser, si vous voulez. Et j'ai défendu cette idée de l'agapé, éclairé par la connaissance dans un de mes derniers livres qui s'appelle « Méandre de l'amour » qui est édité chez Dervy, que vous avez au fond aussi. Je ne pense pas que l'amour est supérieur à la connaissance, pas du tout, hein, pas du tout. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence sur le sentiment amoureux. Comment faire pour bien aimer? Alors, est-ce que l'homme est toujours en adéquation avec son modèle qui lui préexiste, qui l'institue, comme le dit le Logion 84 de l'Évangile selon Thomas? J'en suis pas sûr, hein. Est-ce que l'homme est toujours ce qu'il est fondamentalement, essentiellement? J'en suis pas sûr. Parce que souvent vous avez des énormes décalages ou des énormes distorsions entre ce que l'homme croit être et ce qu'il est en réalité. Par exemple, on connaît des gens engagés, militants, qui vont pétitionner ou défiler contre le racisme, contre le fascisme, et ces gens, on les vante pour cette raison en tant qu'homme public. Mais qu'en est-il en privé? En privé, Parfois, ces mêmes personnes qui pétitionnent ou défilent contre le fascisme ont avec leurs proches une attitude fascisante. Ils sont des petits chefs qui terrorisent leurs femmes, leurs enfants, et quand ils n'en ont pas, leurs chiens, etc. Donc, vous voyez, ces distinctions entre l'homme public et l'homme privé, elles sont très importantes. Jung les a bien signalées, les a bien analysées. Un tel est contre le racisme, mais ne voudrait pas que sa fille épouse un noir, par exemple, ou bien qu'un arabe vienne planter sa maison à côté de la sienne, vous voyez. Soyons lucides, hein, soyons lucides, connaissons-nous. Il y a en nous des pulsions fascisantes, des pulsions mauvaises, hein, il faut les explorer, hein, et en triompher, bien sûr, mais il faut les connaître, hein. Pétitionner ne suffit pas, défiler ne suffit pas, hein. Vous voyez, et au fond, le Jésus de Jean a, dans certaines de ses paroles, une attitude exactement analogue. Voici une très belle parole, hein, Jean chapitre 2, verset 25. Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Vous voyez, il savait. En grec, c'est egignoskein, d'où l'agnose, hein, voilà. Bon, dans la Vulgate, vous avez ce qui est bat, d'où la science, il le savait. Alors ça nous invite à l'introspection, à voir clair en nous-mêmes. Hein. Nous avons de la xénophobie en nous, nous avons du racisme, nous avons du fascisme, etc. Alors, il ne suffit pas de les dénoncer chez les autres, ces choses-là. Il faut soi-même se connaître, se mettre au clair et se changer soi-même. Alors, à quoi sert d'attendre, et ça sera ma conclusion, quelque chose qui devra venir dans une perspective assez fallacieuse d'eschatologie, non? Je pense que rien ne peut venir qui ne naisse déjà de soi-même. Hein. C'est ce que dit Gide dans ses nourritures terrestres. Que pouvait-il naître qui ne vienne pas de nous-mêmes, hein. Donc il faut d'abord réaliser en soi ce qu'on veut voir réaliser chez les autres. Et puis, donc, je vais terminer sur un clin d'œil. J'aime bien l'émission écologique CO2 Mon Amour qui passe tous les samedis en début d'après-midi sur France Inter. Eh bien, le responsable nous dit, on n'attend pas le changement, nous sommes le changement. Vous voyez, nous sommes, c'est-à-dire il faut d'abord l'incarner. Eh bien, un gnostique ne dirait pas autre chose. Voilà, je vous remercie.